Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Agathe, Louise, Léane, Axel, Aïlise, Gabriel et Jean, élèves de 5e F du collège Jules Romain à Saint-Avertin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter tout ce que nous avons vu autour du roman de chevalerie. Nous allons vous expliquer l'origine du projet roman de chevalerie en vous faisant découvrir des extraits d'un roman gagnant au fur et à mesure. Nous vous réserverons une surprise et en fin d'émission, nous vous ferons découvrir un peu de musique médiévale. Bonjour tout le monde.
Bonjour Agathe.
Léane, peux-tu nous dire pourquoi cette idée de faire un roman ?
On a fait un roman car précédemment, nous avons lu un livre dont le titre est « Yvan le chevalier au lion ». Le projet demandé par notre professeur de français, Madame Perry, était d'écrire un roman.
Comment vous vous y êtes pris ?
Nous avons écrit en 5 étapes qui correspondaient au chapitre. D'abord, nous avons réfléchi à un paragraphe prononcé par le ménestrel. Et oui, parce qu'au Moyen-Âge, les histoires étaient transmises oralement. C'est un ménestrel qui se chargeait de diffuser les aventures chevaleresques.
Ensuite, nous avons imaginé une scène de rencontre avec le merveilleux. Ça pouvait être une personne, un animal ou un objet. Dans Yvan, par exemple, il y a un lion qui se lie d'amitié avec Yvan, un géant, une fontaine et un anneau d'invisibilité. Voici le chapitre que Léane a écrit. C'est donc le chapitre 2. Il s'intitule « La fuite de la reine ». Marie était la reine du château de Susino. Elle aimait l'aventure et avoir des frissons. Dans son grand château, elle s'ennuyait. Alors un jour, elle décida de s'enfuir et de devenir chevaleresse. Et oui, chevaleresse, il était très rare d'en rencontrer. Une nuit, Marie décida de partir du domaine. Au loin, elle vit une épaisse forêt. Elle s'avança lentement dans celle-ci, sans faire de bruit. Elle marcha pendant des heures et des jours entiers. Elle espérait trouver un refuge. Elle regretta cette fugue. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Pourquoi n'est-elle pas restée dans son château à l'abri ? Voilà les questions que Marie se posait sans cesse. Mais un jour, au loin, elle aperçut une maisonnette en pierre. Elle était tellement heureuse. C'était le plus beau jour de son existence, car sa vie au château était monotone. Elle toqua à la porte et une femme aussi vieille que le monde apparut. Marie lui raconta son histoire. La femme, très attentive, eut pitié d'elle. La demeurante rentra dans sa maison et apporta du pain, de l'eau et un collier de perles à Marie. La vieille femme lui expliqua que ce collier était magique. « Toi, qui cherches de l'aventure, voici ce collier, dit-elle. Celui-ci est la clé d'un passage secret. » Il se trouve à l'étang Lyon. Quand tu seras arrivé, lance le collier dans l'eau et chante cette formule.
Joli étang, magique étang, révèle ta magie qui se cache dans tes profondeurs.
Marie remercia la femme et se mit en route pour cette aventure. Elle suivit les indications de la vieille femme et trouva l'étang au Lyon. C'était le plus beau point d'eau du monde. Le lac était d'un bleu transparent, le plus beau bleu qu'elle n'ait jamais vu. Marie s'en approcha. Elle prit le collier de perles qu'elle avait mis autour de son cou et le jeta dans l'eau. Puis, elle chanta la formule.
Joli étang, magique étang, révèle ta magie qui se cache dans tes profondeurs.
Après avoir chanté, elle vit l'eau devenir d'un rose pâle comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Ensuite, l'étang se vida de toute son eau et au fond apparut un lion majestueux. Il était aussi grand qu'un cheval, aussi fort qu'une armée de chevaliers. C'était le plus majestueux des lions, le plus beau, le plus puissant. Il avait une crinière dorée et des pattes aussi grosses qu'une tête d'homme. Marie avança vers le lion pour l'observer de plus près. Mais soudain, le lion se mit à parler. « Ne m'approche pas, tu risques un grave danger. Une méchante sorcière m'a jeté un sort. Si une personne me touche ou s'approche trop près, cela déclenchera une des plus grandes tempêtes que le monde n'a jamais connues. Aucun homme, aucun animal, aucune forêt ne pourrait y résister. » Mais Marie, qui était très têtue, voulait voir de plus près ce lion, car elle savait que jamais elle ne reverrait celui-ci. Elle s'approcha du lion et le caressa. Tout d'un coup, le vent se leva puis la pluie suivit. Des arbres volèrent au-dessus de sa tête, des animaux et même des hommes. Elle courut vers une grotte juste à côté de l'étang. Elle y entra et attendit que la tempête s'arrête. Quand celle-ci fut terminée, elle sortit de la grotte soulagée. Elle observa le lion disparaître dans l'eau rose pâle qui redevint bleu transparent. Marie avait tellement eu peur de la tempête qu'elle en était choquée. Elle regrettait son entêtement à vouloir toujours n'en faire qu'à sa tête. Il n'y avait plus aucune végétation autour d'elle, alors une grande tristesse l'envahit. Elle repartit pour de nouvelles aventures.
Merci Louise pour ta lecture. Nous allons faire une petite pause musicale sur le thème médiéval.
Thank you.
Le chapitre 3 était une scène d'amour courtois, et le 4 un combat. Voici l'extrait de celui-ci, lu par Aïlise.
Chapitre 4, le mariage. Le grand jour était arrivé, Marie et Norbert allaient se marier. Il avait fallu de nombreuses semaines pour préparer ce merveilleux événement. Tout avait été mis en œuvre pour qu'il soit inoubliable. Des mets de toutes sortes avaient été préparés. Pâté, gigot de mouton, faisan, rôti de sanglier et beaucoup d'autres préparations aussi appétissantes et odorantes les unes que les autres. Les trompettes résonnaient dans le château. Tous les gens du pays étaient invités à célébrer cet événement. Marie portait une magnifique robe blanche ornée d'une dentelle rose poudrée qui lui allait à ravir. Sur sa tête reposait un diadème incrusté de rubis. Elle était aussi parée d'un étincelant bracelet et d'un collier en pierre précieuse qui brillait de mille feux. Norbert était vêtu de la tenue de mariage familial qui se transmettait à chaque génération. Mais le buffet avait à peine commencé qu'un cavalier arriva à toute allure. Une femme cria « C'est le chevalier noir, que vient-il faire ici ?» Toutes les autres personnes présentes restèrent silencieuses, choquées par son arrivée. Le chevalier leur dit « Je suis venu empêcher ce mariage, c'est moi qui vais épouser la reine Marie. » Le prince Norbert, qui était prêt à tout pour protéger sa bien-aimée, lui dit « Pour savoir qui va épouser Marie, nous allons nous battre. Celui qui gagne le combat remportera le cœur de cette femme. » Les servantes apportèrent au prince une armure en métal et un cheval qui venait d'Andalousie. Tout était prêt. Le combat pouvait commencer. Une trompette résonna pour signaler le début du combat. Les deux chevaliers se faisaient face et se défièrent du regard. Ils se jetèrent dessus. Au premier choc, tous deux brisèrent leurs grosses lances de frêne. Ils descendirent de leur cheval pour continuer le combat au sol. Le combat se poursuivit par des coups d'épée violents. Le prince Norbert perça le mantel du chevalier noir, mais ce dernier ne se dit pas vaincu. Déterminé à gagner le combat, il donna au chevalier un coup violent au niveau du cœur, ce qui broya la côte de maille de son adversaire. Les épées s'ébréchèrent et s'émoussèrent. Ils donnèrent des grands coups d'épée sur leur nasal, leur cou et sur leur front. Leur sang coulait au sol comme un ruisseau. Même couverts de blessures, ils continuèrent jusqu'à ne plus pouvoir se tenir debout. Alors, ils se regardèrent un long moment et semblèrent prendre connaissance des blessures qui s'étaient infligées. Voulant en finir, Norbert donna un coup violent sur le haume du chevalier noir. Il lui brisa la tête. Blessé à mort, le chevalier perdit la vie. Les invités acclamèrent le prince Norbert. Marie était très fière de son futur époux. La fête continua normalement comme s'il ne s'était rien passé. Leur vie fut ensuite très heureuse. Ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants.
Merci à Élise pour ta lecture. À la fin du roman, nous avons écrit un chapitre dans lequel le ménestrel reprend la parole pour conclure l'histoire. Voici un extrait lu par Axel.
Chapitre 5, le ménestrel prend congé. Mon histoire prend fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous la transmettrez à vos descendants. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la raconter. Si vous le souhaitez, revenez me voir et je vous conterai d'autres histoires du temps jadis. À bientôt peut-être.
Merci pour ta lecture, Axel. C'est reparti pour une pause musicale avant la surprise que nous vous avons préparée.
C'est trop vite. Thank you. place à la surprise. Jean va interviewer Léane, une des gagnantes du concours.
Léane, comment as-tu imaginé ton histoire ?
J'ai imaginé mon histoire suite à la lecture du roman « Yvain le chevalier au lion », comme nous l'avons précisé en début d'émission.
Quand as-tu écrit ton livre ? Quel passage t'a le plus plu ?
Alors c'est une question très difficile car j'apprécie tous les passages, mais il y en a un qui me plaît le plus, c'est celui que nous avons lu en début d'émission, plus précisément le chapitre 2, car je me suis beaucoup amusée à inventer un animal imaginaire et à laisser place à mon imagination pour créer un monde fantastique.
Si tu n'étais pas obligée de participer au concours, est-ce que tu aurais quand même participé ? Sinon, pourquoi ?
Oui, j'aurais quand même participé car j'aime bien écrire et je trouve que cette idée d'organiser un concours était très bien car cela donnait vraiment envie de gagner, donc d'écrire une histoire.
Est-ce que tu as pris plaisir à écrire ton livre ?
Oui, j'ai beaucoup pris de plaisir et heureusement car sinon l'histoire n'aurait pas été aussi réussite.
Combien de temps est-ce que ça t'a pris pour écrire ce livre ?
Je l'ai écrit en 4 semaines chez moi et le chapitre 4 du combat, nous l'avons écrit en classe car il était évalué.
Quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu étais l'une des gagnantes ?
Cela m'a fait le plaisir et d'autant plus de savoir que j'allais pouvoir faire partager mon histoire.
Merci beaucoup pour cette interview. Si vous voulez en savoir plus, les romans vainqueurs sont sur la page d'accueil de l'ENT. Merci à mon groupe et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés.
Merci, au revoir.
C'est parti pour la musique.
Out. quelques mères car ce n'est pas la galère.
Merci chers auditeurs, vous êtes toujours en direct de la radio éphémère présente au forum du Collège Jules Romain de Saint-Avertin. Dans quelques instants, nous retrouverons la dernière émission de cette matinée consacrée aux exposés sur les héros faits par les élèves de Madame Muraro en 5e B.
Bonjour, nous allons vous présenter des exposés. Alors, nous sommes Paul
et Jules
de la classe de 5e B. On nous a demandé de faire un exposé sur l'héroïsme. Donc on va vous présenter notre exposé. Notre exposé va être sur Marie Curie, née le 7 novembre 1867.
Marie Curie avait 3 sœurs et 1 frère, un père physicien et mathématicien et une mère institutrice.
Zofia, sa sœur, meurt du typhus et ensuite sa mère d'une tuberculose. La mort de ses deux proches l'a influencée dans les études et dans toutes les matières. Elle obtient la note maximale.
Marie Curie obtient son diplôme de fin d'études avec la médaille d'or. Elle rejoint alors une école illégale en Pologne pour les filles, car les jeunes filles n'ont pas le droit d'étudier.
Elle souhaite poursuivre ses études et se décide à aller en France, là où elle pourra continuer ses études.
Elle se marie avec Pierre Curie et ensemble découvrent le radium et le polonium dans un granit d'uranium. Cela a beaucoup fait avancer la médecine et dans le domaine de la radiologie. Merci de nous avoir écoutés.
Nous sommes Lucas et Maxime et nous allons vous présenter un exposé sur Neil Armstrong.
Neil Armstrong, né le 5 août 1930 aux États-Unis, est mort le 25 août 2012 à 82 ans. Armstrong obtient une licence en aéronautique à l'université Purdue. Il a été astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'unité State Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Le 21 juillet 1969, durant la mission Apollo 11 avec Buzz Aldrin et un homme dont on entend un peu moins parler, Michael Collins, prononça alors cette fameuse phrase restée célèbre à jamais. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité.
L'expédition a eu lieu durant la guerre froide. Après celle aux armements, une nouvelle course vit le jour, celle de l'espace. Après l'envoi du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en mars 1962, les États-Unis se devaient de répliquer rapidement. L'arrivée sur la Lune ne fut 4 jours après le décollage. Il y eut de nombreuses péripéties, puis en direct, le monde entier vit Armstrong descendre de la Lune. Descendre sur la Lune. Nous pensons que c'est un héros car il a pris le risque de mener à bien une mission périlleuse où il y a eu plusieurs morts lors de précédentes expéditions.
Bonjour, nous sommes Nino et Mathieu.
Nous allons vous présenter un exposé sur Thomas Pesquet.
Thomas Pesquet est un astronaute français qui est né le 27 février 1978 à Rouen. Il a passé un concours pour devenir pilote de ligne. En 2009, il fait partie des 6 candidats recrutés pour la NASA pour former 3 groupes d'astronautes. Il est le 2e Français à partir dans l'espace, le 17 novembre 2016. Thomas Pesquet parle diverses langues comme l'anglais, le français, l'espagnol, le russe et l'allemand.
Thomas Pesquet a été formé à l'Institut supérieur de l'aéronautique. C'est le premier tricolore à aller dans l'espace, le 17 novembre, vers la Station spatiale internationale, ISS. Pour devenir astronaute, il y a 11 ans d'études avec des mathématiques et de la physique. Thomas Pesquet a habité à Paris en 2002-2004 et maintenant il vit dans plusieurs maisons à Madrid, Rouen et Montréal. Thomas Pesquet est reparti dans l'espace pour une mission de 6 mois appelée Alpha.
Pour allumer une intelligence artificielle.
Octobre 1869, à Porbandar, en Inde, Mohandas Karamchand Gandhi est un révolutionnaire indien qui s'est battu toute sa vie pour l'indépendance de l'Inde occupée par les Britanniques. Sa démarche pour reprendre l'Inde est pacifique. Il organise des grèves de la faim. Du 12 mars au 6 avril 1930, la marche du sel contre la taxe du sel et plein d'autres manifestations de non-violence.
À 13 ans, Gandhi est marié à Kasturba qui a le même âge que lui. Ils auront 4 enfants. À 21 ans, il devient avocat diplômé par l'University College de Londres. À 35 ans, il fonde une première ferme collective près de Durban. Il y impose l'ascétisme. C'est un genre de vie religieuse des ascètes. Les ascètes sont des personnes qui vivent une vie très simple, sans loisirs. À 37 ans, il renonce sa vie aux relations sexuelles afin de se consacrer à la spiritualité. Gandhi décide de nettoyer ses latrines et de se couper les cheveux lui-même. Les latrines sont des toilettes. Il a 44 ans quand il rentre en Inde, en 1914.
Mohandas Karamchand Gandhi a été emprisonné en Afrique du Sud et en Inde par les Britanniques pour ses manifestations. À 52 ans, il est condamné à 6 ans de prison car il avait prôné la désobéissance civile du peuple indien contre l'Empire britannique. Mais finalement, il se fait opérer de l'appendicite. Il est donc libéré 2 ans plus tard. Lors de son interview par un journaliste américain de Fox Movistar News, il dit « Je me vois comme un soldat, mais un soldat de la paix ». Gandhi est considéré comme un véritable héros. La date de son anniversaire est maintenant une fête nationale.
Après une première tentative d'assassinat faite par son frère Gopal Ghosh, Nathuram Vinayak Ghosh assassine Gandhi le 30 janvier 1948 à New Delhi, la capitale de l'Inde.
Nous allons passer à une pause musicale. On se retrouve juste après. Bonne journée. Fucking raps and the rooks can't stand it. From hip hop to bebop, trombone to break. We live from the BX to 718. So we find and exquisite as things we create. In agreement with the stars, it's the hands of fate. For this hip hop to bebop, for all to see. Rocking straight from the field, it's the 413. We the brightest of the bright, don't confuse us, too. Nothing less certified, fresh we was born to be. What's a light that won't fade and won't go out? What's an MC to do with an ounce of doubt? How can I keep these niggas to listening? Where's my right hand man when my left one seem missing? Can you count all the amounts of times I step from the good store the way writing rhymes? Does the visual take away from your own design? I mean, how can one picture come from 15 minds? I'm like, you saw the symbol, did you read the sign? And who determines who's ahead of their time? Trying to not be forgotten, it's an aimless cause. All in the same box, but my shovel's much bigger than yours. We cross the bridge, now we increase the pace. Check the melody while I conclude my case. I'm the MC Tablique, science in the rap, liberating jazz. Liberators on the track, I'm repping those that's leaning, hoodied up or Benz beaming. Clever crooks still cracking the book, always feening for the knowledge. Might be in a white tee, some think I'm just a thug nigga, but I might be. But everyone act politely, we can build all damn night be. Chill with the women's is in white bees. I heard France on the radio was burning up. I slightly grinned and I turned the cabby, turn it up. Hip hop to bebop, trombone to break. We live from the BX to 718. So we find and exquisite as things we create. In agreement with the stars, it's the hands of fate. For this hip hop to bebop, for all to see. Rocking straight from the field, it's the 413. We the brightest of the bright, don't confuse us, G. Nothing less certified, fresh we was born to be.
Just my thing. Too many artists to name where I got my inspiration from, you know, but I like it all, from hip-hop to rock to country. A little bit of everything influenced me. We'll keep it on the hip-hop right now. MC Light, of course, you know, hit the road saying, don't you come back no more, no more, no more, no more. Who didn't like that joint? Queen Latifah. Dance to the music. That was my joint. X-Clan.
With the key, sissies.
Poor Righteous Teachers. Of course, the whole Queens Movement, Tribe, Large Pro, Akineli,
Nas, Mobb Deep, bump that in my car just about every day. Hey, G-Rap, Whole Juice Crew, and also some West Coast cats, Snoop, but my favorite album from a West Coast artist, Psy from the Chronic, both the original Chronic and the Chronic 2001, but Death Certificate is like, it's my all-time favorite because of the way it's put together. Big Ice Cube fan back in the day. You know, where I see myself in this whole mix, I just want to give back.
Radio Éphémère, suivez la lumière.
Merci à tous pour ces moments agréables. Ça y est, chers auditeurs, c'est déjà la fin de cette matinée. Avant de faire la pause déjeuner, nous vous demandons encore quelques minutes pour écouter Romain et sa blague et son pourquoi des choses. À toi de jouer, Romain.
Un jour, Dieu ordonna à David de guetter et David guetta. Un jour, Dieu ordonna au Coca de coller et le Coca-Cola. Monsieur et Madame Débute ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Jean-Marc. Jean-Marc Débute. Monsieur et Madame et Jerry ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Tom, Tom et Jerry. Un jour, Dieu dit au chaud de coller et le chocolat. Un jour, Dieu dit à Mara de donner et Maradona.
Le pourquoi des choses vous métamorphose.
Bonjour, c'est Romain du Club Radio. Je vais vous parler des pourquoi des choses. Les pourquoi de la mythologie. Pourquoi la peur est-elle parfois panique ? La peur panique, c'est-à-dire la peur de Pan, évoque la terreur. Fils d'Hermès, Pan était le dieu des pâturages, des moutons et des chèvres. Il naquit avec des membres inférieurs de bouc et des cornes sur la tête. C'est ainsi que l'on représentait le diable au Moyen-Âge. Lorsque sa mère découvrit le monstre qu'elle avait engendré, elle fut à ce point terrifiée qu'elle s'enfuit et l'abandonna. Pan grandit dans la forêt, passant ses journées à surprendre les nymphes et à les poursuivre de ses ardeurs. Bien sûr, comme il était laid, elle fuyait en hurlant. Pourquoi ne faut-il pas ouvrir la boîte de Pandore ? Ouvrir la boîte de Pandore, c'est se mettre dans une situation catastrophique ou inextricable, à l'instar de Pandore, la première femme selon la mythologie, créée par Vulcain, le dieu des forges. Le jour de son mariage, les dieux lui offrirent un coffret scellé en lui recommandant de ne jamais l'ouvrir. Mais rongée par la curiosité, Pandore désobéit et ouvrit la boîte fatale d'où s'échappèrent tous les fléaux du monde qui se répandirent sur la terre. Et réalisant ce qu'elle avait fait, Pandore referma rapidement le coffret, emprisonnant l'espérance restée dans le fond de la boîte. Merci de m'avoir écouté, c'était Romain du Club Radio.
Merci chers auditeurs d'être restés en compagnie de Radio FMR sur 97.4 en direct du studio du Collège Jules Romain, tout au long de cette belle matinée. Nous vous invitons à poursuivre votre écoute à partir de 13h30. Nous allons déjeuner.
Bon appétit à tous. I